Mais merci à vous d'être venu. C'est vrai que les conditions, elles sont plus propices aux mammouths qu'aux gens pour se déplacer tout de suite. Je crois que c'est la troisième fois que je viens à Tence pour parler des mammouths. La première fois, c'était au collège qui avait participé au projet pédagogique. Et on était revenu pour un bon moment en janvier 2010 avec des Dolganes, justement au collège. Les Dolganes, c'est un peuple nomade qui vit en Sibérie et qui a 8 mois d'hiver, qui élève des rennes et qui vit un petit peu du mammouth. Et on avait amené donc 2 Dolganes au collège de Tence et ça reste toujours un bon souvenir pour moi, j'espère pour les collégiens, mais aussi pour les Dolganes, puisqu'ils nous en reparlent encore. On leur avait donné un livre avec des photos et ça reste toujours un moment un peu particulier d'avoir pu faire cette rencontre en fait entre ces gens qui vivent dans un endroit très spécial. Ils ont des températures qui atteignent moins 70 de temps en temps. Hein. C'est quelques heures en janvier, février, il fait moins 70. L'hiver, tout de suite, il fait moins 49, je crois, là-bas. Et cette rencontre, pour eux, ça avait été un moment fort. Donc, c'est avec d'autant plus de plaisir que je reviens à Tence pour reparler des mammouths. Alors, tout d'abord, on va faire une présentation générale de la Haute-Loire pour aller un petit peu rapidement là-dessus. La Haute-Loire, c'est un territoire qui est extrêmement riche en fossiles. Aujourd'hui, on connaît plus d'une centaine de sites en Haute-Loire qui sont répartis sur trois grands territoires, en fait. Le premier territoire, ça va être la vallée de l'Allier. Ensuite, on va retrouver beaucoup de sites dans le bassin du Puy, le grand bassin du Puy, en fait, et la vallée de la Loire. Donc on a une centaine de sites. Sur cette carte, il y en a seulement une cinquantaine de sites. Mais en tout, il y en a une centaine. Et on en trouve encore aujourd'hui. Le deuxième point important pour la Haute-Loire, c'est que tous ces sites sont liés au volcanisme. Les volcans sont aussi un élément très important pour la Haute-Loire, puisque c'est eux qui dessinent le paysage qu'on peut voir aujourd'hui. Et c'est grâce aux volcans qu'on retrouve des fossiles. Et ce lien entre les fossiles et les volcans, allô? Si, ça va. C'est un lien qui est unique. Pourquoi? Parce que les volcans ont servi à protéger ou même à fabriquer ces fossiles. Donc il y a plusieurs façons de lier les fossiles de mammouths ou d'autres animaux avec les volcans. Le premier type de lien, c'est la photo qu'on a en haut. Peut-être vous reconnaissez le lac de Saint-Front. C'est ce qu'on appelle un mare. Et les mares, bien souvent, comme à Saint-Front, ont été remplies par des lacs. Au bord des lacs, les animaux venaient vivre, ils venaient boire, et ils venaient donc mourir aussi. Donc dans ces mares, dans ce type de volcan-là, on va retrouver énormément de fossiles. Et des mares, il y en a beaucoup en Haute-Loire. Le deuxième type de lien, c'est plutôt ce qu'on a sur le bassin du Puy, qui il y a très très longtemps était des plaines avec des rivières, qui ont laissé derrière elles des rivières ou des lacs d'ailleurs, qui ont laissé derrière elles des sables qu'on appelle les sables roux du Velay. Et ces sables sont recouverts par des émissions volcaniques. Ces émissions volcaniques, des brèches ou des basaltes, ont servi à protéger ces sables roux de l'altération, du vent, de la pluie, du gel, de leur disparition en fait. Et c'est grâce aux volcans qu'on va retrouver des fossiles, dans ce cas-là, sous le volcan. Dans le premier cas, on va retrouver des fossiles dans le volcan. D'accord? Dans un mare, c'est à l'intérieur du cratère. Dans le bassin du Puy, c'est dans ces sables qui sont protégés par les volcans, donc sous le volcan. Le troisième type de lien, c'est ce qu'on appelle le catastrophisme. C'est un peu comme à Pompéi, en fait. Un volcan rentre en éruption et va prendre une photo de tout ce qui vivait à l'instant de l'éruption. D'accord? Donc là, les fossiles sont contemporains de l'éruption volcanique. Dernier type de lien, c'est dans les grandes vallées fluviales de la Haute-Loire, notamment ben, la vallée de la Loire et la vallée de l'Allier, puisque ces deux grandes vallées étaient les seuls axes de communication pendant les dernières périodes glaciaires. Et dans ces vallées, qui pour la plupart du temps coupent des coulées de basalte, dans ces coulées-là, on va retrouver des petits abris, des petites grottes, et dans ces abris, dans ces grottes, l'homme est venu s'installer. Il a vécu à l'intérieur pendant un petit moment, Il a donc laissé des outils, il a laissé aussi les restes de sa nourriture, donc des fossiles. Donc là, on va retrouver des fossiles dans la coulée du volcan. Mais à chaque fois, il y a un lien avec le volcanisme. Et c'est une des spécificités de la Haute-Loire, ce lien très très fort. Le troisième point très important pour la Haute-Loire, et d'un point de vue scientifique, c'est aussi le plus important, c'est que tous les sites de Haute-Loire vont s'étaler dans le temps de 3 millions d'années à 15 000 ans, 15-12 000 ans. Et ça, c'est très important, puisque on va avoir 3 millions d'années, c'est pratiquement la date d'apparition de l'homme en Afrique. 15 000, 12 000 ans, c'est la dernière grande glaciation. Donc depuis que l'homme apparaît sur Terre, avec les sites de Haute-Loire, on est capable d'expliquer tout ce qui s'est passé, tout ce que l'homme a rencontré, les changements du climat, les changements d'environnement, les changements de faune, les comportements qu'a eu cet homme par rapport à ces faunes, leur migration, leur évolution, etc., etc. On est capable d'expliquer tout ce qu'a connu l'homme avec les sites de Haute-Loire. Et ça, c'est très très important, puisqu'en général, dans les autres régions du monde qui sont très riches en fossiles, ils vont être riches pour une période donnée. Si on prend l'exemple de l'Espagne, en Andalousie, on trouve beaucoup de fossiles dans ce qu'on appelle les barrancos. Et les barrancos, en général, sont datés entre 1,2 million et 1,6 million. Il n'y en a pas avant, il n'y en a pas après. En Allemagne, ça va être dans les travertins qui sont entre 700 000 ans et 1 million d'années. Il n'y en a pas avant, il n'y en a pas après, dans ces régions-là. Alors que nous, on a vraiment toute cette chronologie. Et ça, c'est très très important d'un point de vue scientifique. Vous parliez de l'UNESCO, c'est un des points majeurs pour l'UNESCO. Le quatrième point très très important pour la Haute-Loire, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui a été écrite notamment au 19e siècle par les hommes, par certains hommes. D'abord par le monsieur de droite qui s'appelle Cuvier. Cuvier, c'est celui qui a écrit les premiers traités de paléontologie, qu'on appelait d'anatomie comparée, et qui s'est intéressé à la Haute-Loire, qui a travaillé à la Haute-Loire. Il est venu plusieurs fois en Haute-Loire. Il a trouvé des fossiles, il a créé des espèces d'ailleurs, avec des fossiles de Haute-Loire. Et il a tout de suite travaillé avec des érudits locaux, et notamment le monsieur de gauche qui s'appelle Auguste Aymar, qui est un des premiers directeurs du musée Crozatier. Et cet Auguste Aymar-là a créé toute une émulation autour de lui, et beaucoup de gens se sont intéressés aux fossiles, ont trouvé des sites, ont trouvé des nouveaux animaux, des nouvelles espèces qu'on n'avait pas vues avant. Et on va dire qu'à cette période, au 19e siècle, il y a entre 70 et 80% des sites de Haute-Loire qui ont été découverts. Il y a de nombreuses espèces qui ont été décrites aussi en Haute-Loire, on en reparlera un peu plus tard. Donc on va commencer avec des petites généralités sur les mammouths, puisqu'on dit beaucoup de choses sur les mammouths qui ne sont pas forcément vraies. Notamment, on pense souvent ou on entend souvent dire que les mammouths sont les ancêtres des éléphants, alors que ce n'est pas possible, puisque les éléphants existaient avant les mammouths. Vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas être leurs ancêtres. Les premiers éléphants apparaissent en Afrique il y a 8-9 millions d'années. Les premiers mammouths apparaissent il y a à peu près 6 millions d'années en Afrique. C'est l'éléphant d'Afrique qui apparaît en premier, ensuite le mammouth, et ensuite l'éléphant d'Asie qui est un proche cousin du mammouth en fait. Les mammouths, les éléphants sont des animaux un petit peu particuliers du fait qu'ils sont très très lourds. Donc ils ont un squelette qui est adapté à porter un poids qui peut aller de 3 tonnes jusqu'à 7 tonnes. Les os en général, peut-être vous le savez, sont composés de deux parties importantes, les extrémités, qui sont faites de tissus spongieux, et ce qu'on appelle la diaphyse, le fût de l'os, qui est de l'os compact. À l'intérieur, vous avez la moelle. Et si vous mettez 4000 ou 7000 kilos sur ce genre de structure-là, eh ben, ça va briser l'os, et vous ne pourrez jamais porter un poids aussi important. C'est pour ça que les mammouths ont des os avec beaucoup de tissu spongieux, essentiellement du tissu spongieux, c'est difficile à dire. Et quand vous coupez un os de mammouth, vous voyez des petites alvéoles, un petit peu comme des nids d'abeilles, qui permettent de porter ce poids extrêmement lourd. On dit que leur squelette est pneumatique, en fait. Ça amortit les chocs. Il n'y a pas d'articulation emboîtée. C'est pas une vraie articulation où les os sont imbriqués les uns dans les autres, mais ils sont posés dessus, en fait, comme ça. Ils ne peuvent pas se casser les articulations, ce qui est normal quand on fait ce poids-là. Il y a un autre Une autre spécificité à ces animaux, qui vous a pas échappé, c'est qu'ils ont une trompe. La trompe qui est présente chez tous les animaux qu'on appelle les proboscidiens, les animaux avec une trompe en fait. C'est la fusion du nez et de la lèvre supérieure. C'est par là qu'ils respirent. Et c'est important puisque ça va leur permettre d'être de très bons nageurs. Ils ont d'autres adaptations à la nage, mais cette trompe qui leur sert comme un véritable tuba, en fait, leur permet de nager sur des très longues distances et pendant très longtemps. Ça a des incidences puisqu'on va retrouver des mammouths et des éléphants jusque sur les îles. Ici, notamment, c'est sur les îles de Méditerranée. Il y a à peu près 700 000 ans, en Europe et en Haute-Loire, on avait un éléphant ici qui est un lointain ancêtre de l'éléphant d'Asie qui s'appelle l'éléphant antique, qu'on retrouve notamment à Blanzac. Je ne sais pas si, oui, si vous connaissez Blanzac, vers Saint-Paulien. Et cet éléphant-là, il s'est servi de sa trompe comme d'un tuba justement pour aller sur les îles en Méditerranée. En Méditerranée et sur toutes les autres îles qu'on peut retrouver dans le monde, les animaux de grande taille, lorsqu'ils vont arriver sur les îles, ils vont diminuer petit à petit leur taille jusqu'à développer une forme de nanisme. Ils vont devenir nains. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, ils doivent, pour survivre, partager une plus faible quantité de nourriture avec leur population. Et la plupart du temps, les animaux utilisent cette grande taille pour se protéger des carnivores, des prédateurs. Sur les îles, il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de carnivores. Donc ils n'ont pas besoin d'être aussi grands pour se protéger. Ces deux facteurs-là mis ensemble vont faire que petit à petit la taille va diminuer. Ils vont développer, je vous dis, une forme de nanisme. Et ces deux éléphants adultes pour celui du bas et un peu plus jeune pour celui du haut, l'éléphant adulte qui vient de Sicile mesure que 80 cm de haut. D'accord. Donc c'est vraiment des tout petits éléphants. Et pour la petite histoire, c'est les premiers hommes, lorsqu'ils sont arrivés sur ces îles et qu'ils ont vu ces crânes qui sont un peu plus grands qu'un crâne humain, avec un énorme trou au milieu, vous voyez, en fait, c'est l'endroit où vient s'insérer la trompe, hein. C'est le nez, la fosse nasale, n'ont pas su expliquer ces crânes-là, la présence de ces crânes. Ils n'ont pas compris que c'était des éléphants, encore moins que ça pouvait être des éléphants nains. Donc on a créé des légendes pour expliquer tout ça. Et c'est la légende du cyclope qui vient de la découverte de ces crânes d'éléphants nains. Il y a énormément. Il y a plusieurs légendes de mythologie qui puisent leur origine dans les fossiles. On pense aussi aux géants. Aux géants dans les mythologies plus de l'Europe de l'Est ou nordique, avec la découverte de grands fémurs de mammouths qui peuvent atteindre cette taille-là. Et quand vous trouvez ce genre de fémur et que vous connaissez pas l'existence des éléphants ni des mammouths, vous essayez d'expliquer leur présence. Et pour expliquer leur présence, ben vous avez aucune preuve rationnelle, donc vous créez un mythe, une légende, et c'est les géants qui viendraient de la découverte de ces fémurs. Il y a les licornes aussi. Les premiers dessins d'une licorne, les premières traces d'une licorne, de squelette d'une licorne, on peut reconnaître plusieurs squelettes différents. On pense en fait que c'est une population ou quelqu'un qui a trouvé un site fossile avec un peu de cheval, un peu de mammouth, un peu de rhinocéros. Il y a du cerf, il y a du bison dans les premiers dessins d'une licorne. Et ils ont pensé que c'était un seul animal qui était mort sur place. Et quand vous prenez un crâne de rhinocéros et que vous mettez une côte de mammouth dessus, ça fait une licorne. D'accord ? Donc c'est un animal mythologique et on crée cette légende pour expliquer la présence de ces fossiles. Voilà. Donc ça, c'est l'éléphant dans les îles de Méditerranée. Le mammouth, lui, il est devenu nain en nageant sur les îles au large de la Californie et de la Sibérie aussi. Si on commence avec la Haute-Loire, il y a 3 millions d'années, à cette époque-là, on retrouvait en Haute-Loire deux mastodontes différents. Le climat, bien sûr, était différent. On avait ici un climat qui était subtropical. D'accord ? Donc il faut penser à l'Asie du Sud-Est. On est presque en Thaïlande, il y a 3 millions d'années en Haute-Loire. Hein ? Il faut imaginer que l'environnement va ressembler à des marécages avec des forêts très clairsemées. Le premier des mastodontes qu'on va trouver, je ne vais pas en parler longtemps, il s'appelle le mastodonte de Borson. Il a la particularité d'avoir les plus longues défenses du monde. C'est un animal qui a des défenses qui mesurent 5,2 mètres de long. Donc il fait en tout 9 mètres de long. C'est pour ça que je vous dis que c'est des forêts très clairsemées, parce qu'il faut qu'ils puissent tourner. Hein. Quand on fait 9 mètres de long, si vous avez une jungle, vous ne pouvez pas tourner. Donc c'est le premier mastodonte. Voilà ses dents. Et le plus intéressant des mastodontes, en tout cas mon préféré à moi, c'est le mastodonte d'Auvergne. D'abord parce que c'est le nôtre, c'est pas le mastodonte de Borsone, celui-ci, c'est celui de l'Auvergne. Parce que c'est ce mastodonte-là qu'on a reconstitué pour l'exposition au Puy, pour la première fois, grâce à des fossiles qu'on avait trouvés en Haute-Loire. Notamment grâce au seul crâne entier qui existe de cet animal, qui a été découvert à Chillac, vers Langeac. Le mastodonte d'Auvergne, il a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Notamment, grâce à lui, on comprend les différences qu'il y a entre un mammouth et un mastodonte. Donc, ça, c'est une photo de maquette de l'animal reconstitué. Et on peut voir clairement les différences qu'il y a entre un mammouth, un éléphant et un mastodonte. Déjà, vous voyez que les mastodontes ont des corps qui sont très allongés. Ils sont tout en longueur, ils ne sont pas très très hauts. Un mâle mastodonte fait 2,30 m de haut. D'accord ? Donc il va être beaucoup plus long que haut. Alors que les mammouths et les éléphants sont des animaux qui vont être très très hauts, mais pas très très longs en proportion. Vous voyez que sa tête est horizontale. Ses défenses sont horizontales. Elles sont très peu courbées. Chez le mammouth et chez l'éléphant, la tête va être verticale et les défenses vont être d'abord verticales et ensuite vont se courber chez le mammouth. Donc ça, c'est très très visible. Et ensuite, pour des choses un peu moins visibles, il y a énormément de différences, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Notamment, les défenses du mastodonte d'Auvergne, elles sont recouvertes d'une toute petite couche d'émail qui recouvre l'ivoire. Alors que chez l'éléphant et chez le mammouth, les défenses, elles ne sont qu'en ivoire. Il n'y a pas d'émail dessus. C'est un animal important aussi pour l'histoire. Je vous ai dit qu'on a une longue tradition de découverte et de recherche de fossiles en Haute-Loire. Et les premières découvertes, en tout cas la création du mastodonte d'Auvergne, remonte à 1828 par Croiset et Jaubert. Ils ont trouvé ces deux dents-là, en fait c'est une mâchoire qu'on voit ici, et les dents qui sont au-dessus, d'un bébé mastodonte, ce sont des dents de lait en fait, hein. À cette époque-là, ça fait à peine 30 ans que la paléontologie existe, c'est une science qui est toute neuve. Donc on va comparer les découvertes avec ce qui a déjà été découvert auparavant, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc ils ont vu rapidement que c'était impossible d'attribuer ces dents à un gros sanglier ou un petit hippopotame. Ils ont vu que ça ressemblait plus à un mastodonte et ils en ont fait une nouvelle espèce qu'ils ont appelée le mastodonte d'Auvergne. Et la phrase qui est en gris, je ne sais pas si vous la voyez bien, je peux la lire, si je la vois bien aussi, je ne la vois pas bien, qui déclare la naissance ou la création d'une nouvelle espèce de mastodonte qu'on appelle mastodonte d'Auvergne. C'est un petit peu l'acte de naissance de la paléontologie en Auvergne. Ça va permettre de faire prendre conscience aux gens de la richesse du patrimoine qu'il y a ici, et notamment en Haute-Loire. Et donc, des gens, à partir de ces écrits-là, vont commencer à chercher et à trouver des sites fossiles. Le livre dans lequel est compris cette description du mastodonte d'Auvergne est sorti au printemps 1828. Les premiers sites fossiles de Haute-Loire ont été trouvés à l'automne 1828. Donc c'est quelques mois après. 1829, on commençait déjà à trouver énormément de sites. Et dans les 20 années qui venaient, on en connaissait plus d'une cinquantaine. Donc c'est vraiment un acte de naissance. C'est pour ça que cet animal est très très important. Il va aussi nous permettre de comprendre ce que veut dire le mot mastodonte. On utilise ce mot à tort et à travers pour parler de quelque chose qui est très très gros, très imposant, très grand, très lourd. Alors que le mot mastodonte ne signifie absolument pas quelque chose de lourd, de très gros, de très grand. Ce sont deux mots grecs qui sont attachés, masto et odonte. Masto, ça veut dire mamelle, et odonte, ça veut dire dent. Et si vous regardez les dents d'un mastodonte, vous voyez qu'elles sont composées de plein de petits tubercules, des petites montagnes, des petits reliefs comme ça, que les anciens appelaient des mamelles. Et en fait, mastodonte, ça veut dire animal en forme, avec des dents en forme de mamelle, tout simplement. Donc la prochaine fois que vous dites à quelqu'un que vous êtes un mastodonte, faites attention. il pourrait mal le prendre. Enfin, les mastodontes vont disparaître d'Europe il y a à peu près 2 millions d'années. Et cette peinture, en fait, qui pourrait être une photo prise il y a 2 millions d'années, a été prise vers Langeac sur un site qui s'appelle Chillac. C'est un site qui est très très important, puisqu'on va retrouver à Chillac une des dernières populations de mastodontes, qu'on voit en bas à gauche de la peinture, qui va cohabiter avec une des premières populations de mammouths qui arrivent en Europe et en Haute-Loire. Grâce à Chillac, on a compris beaucoup, beaucoup de choses sur les mammouths et sur les mastodontes. Notamment, à Chillac, on ne retrouve que des femelles avec des enfants. Donc on a compris que les mastodontes vivaient comme les éléphants aujourd'hui. Ce sont des petits groupes d'une vingtaine d'individus avec des femelles qui élèvent les enfants jusqu'à ce qu'ils soient en âge de quitter les groupes. Les mâles vivent, eux, à l'extérieur. Hein, ce sont des sociétés qu'on dit matriarcales, dominées par les femelles. Ça, on l'a compris avec Chillac. On ne savait pas avant comment vivaient les mastodontes. On retrouve à Chillac aussi que 5 crânes de très vieux mammouths. Pourquoi ? Ben parce que Chillac, c'est un site qui n'est pas très loin de l'Allier. Il y avait une petite rivière qui passait à côté du site. Il y avait peut-être aussi une mare, en tout cas de l'eau. Les éléphants, lorsqu'ils deviennent vieux, les mammouths, c'est la même chose, eh ben ils deviennent très très fragiles et très très faibles. Normalement, chaque jour, ces animaux doivent marcher 30 à 40 km pour pouvoir trouver leur nourriture, c'est-à-dire de l'herbe, des feuilles, et de l'eau. Et lorsqu'on est un vieux mammouth ou un vieil éléphant, on est incapable de marcher ces 30 à 40 km par jour pour trouver de l'eau. Donc lorsqu'ils sont vieux, lorsqu'ils sont âgés, ils vont trouver un point d'eau auprès duquel ils vont finir leur jour. En général, ils vont se regrouper au bord de ce point d'eau-là pour pouvoir se protéger, puisqu'ensemble, ils vont pouvoir se protéger des prédateurs. Tout seuls, ils n'y arriveraient pas. Et c'est un petit peu l'histoire des cimetières d'éléphants. On dit que les éléphants, ils ont la mémoire longue, ils se souviennent où est-ce qu'il faut aller mourir. Donc, en fait, ce n'est pas vrai du tout. C'est juste qu'ils se regroupent ensemble au bord des points d'eau et du coup, ils se protègent avec l'effet de groupe. Et c'est grâce à Chillac qu'on a compris que les mammouths fonctionnaient de la même façon. Lorsqu'ils sont vieux, ils viennent finir leur jour au bord d'un point d'eau. Ok ? Notre premier mammouth qui arrive et qui petit à petit va prendre la place du mastodonte, c'est le mammouth méridional. Alors comment ça se fait que le mastodonte va disparaître et que le mammouth va arriver ? Les mammouths sont des animaux qui sont originaires d'Afrique. Je vous ai dit, il y a 5-6 millions d'années, ils vont apparaître en Afrique et petit à petit, ils vont envahir l'Afrique. Et il y a à peu près 2,5 millions d'années, le climat subtropical qu'on avait en Europe, en Haute-Loire, les marécages, les forêts clairsemées, tout ça petit à petit va disparaître et va laisser la place à une savane. La savane va permettre aux mammouths de sortir d'Afrique et de trouver en Europe un environnement qu'il connaît parfaitement et pour lequel il est adapté. D'accord ? Le mastodonte, il n'est pas adapté à la savane. Il est adapté à ses marécages et à ses forêts clairsemées. Donc petit à petit, il va pousser le mastodonte dehors jusqu'à la disparition. Le premier mammouth qui arrive en Europe, je vous dis, le mammouth méridional, c'est le plus grand de tous les mammouths. Vous voyez qu'il ne ressemble pas à l'image qu'on fait d'un mammouth, il n'a pas de poils. Hein. Quand on vit dans une savane, on n'a pas besoin de se réchauffer. Le plus grand de tous les mammouths, puisqu'il mesure 4,20 m de haut, il pèse 7000 kg. Il ressemble un petit peu, pour vous donner une idée, à une maison à deux étages avec des roulettes dessous. C'est la même chose. Ce premier mammouth qui vit dans une savane, il faut imaginer une savane en Auvergne. Donc, vous imaginez l'Afrique de l'Est avec des buissons, des broussailles et des arbres. Il n'y a pas vraiment d'herbe dans une savane. Donc ces mammouths-là vont manger des buissons, des broussailles et les feuilles des arbres. C'est ce qu'on appelle des végétaux qui sont très tendres, qui n'usent pas les dents. Donc c'est des animaux qui sont très très grands, mais avec des molaires qui sont très très basses, puisqu'elles ne s'usent pas en mangeant. Vous voyez qu'une dent de mammouth, une molaire de mammouth, c'est composé de grandes lames d'émail en travers qui fonctionnent comme des rabots. C'est des animaux qui vont mâcher d'avant en arrière. Ils vont raboter, en fait, pour éliminer les végétaux. Les autres animaux vont mâcher de droite à gauche ou en faisant des mouvements circulaires. Eux, c'est des vrais rabots. Et donc, ces lames d'émail, il en a un nombre très faible. Il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de rabots, vu que les végétaux qu'il va manger sont très tendres. Et on va voir que tout ça, ça va changer. Et ça, cette photo, cette peinture, en fait, elle reprend un site qui est vers Polignac, qui date de 1,3 million d'années, où on voit nos mammouths méridionaux avec des bébés mammouths. Certains sont en train de manger les feuilles des arbres, comme je vous le disais, à côté d'hippopotames. L'hippopotame, c'est aussi un animal qui va sortir par migration d'Afrique et qui va arriver en Europe, comme les grands félins aussi, le tigre à dents de sabre, qui sont originaires d'Afrique. Et dans une de ces migrations, c'est l'homme qui sortira d'Afrique. Il va suivre les troupeaux, il va suivre la nourriture. Il est aux portes de l'Europe à 1,8-1,9 million d'années, puisqu'on le retrouve en Géorgie à cette date-là. Il viendra plus tard en Europe occidentale. Donc là, il y a 1,3 million d'années à Polignac. Par la suite, vers 800-700 000 ans, on va de nouveau avoir un grand changement climatique et donc un grand changement de la faune. La savane va disparaître et va laisser place à ce qu'on appelle une steppe. Les steppes sont des grandes prairies sans arbres, quasiment sans arbres. Donc les végétaux tendres que mangeait notre mammouth méridional vont disparaître. Le mammouth va devoir s'adapter à un climat différent, il fait un peu plus frais, pas forcément froid, mais un peu plus frais. L'environnement n'est plus le même. On va passer d'une savane à une steppe. Et donc la nourriture va changer aussi. On va passer de végétaux tendres, des feuilles, des buissons, des broussailles, à des herbacées, à de l'herbe. Des végétaux qui sont très durs, très abrasifs. Quand on s'adapte à un nouveau climat, à un nouvel environnement, à une nouvelle nourriture, ça veut dire qu'on évolue. Et le mammouth méridional a évolué en mammouth des steppes. C'est celui-ci, le mammouth des steppes. Lui, il est un peu plus petit, il fait que 3,60 m de haut et il pèse que 6 000 kg. On va le retrouver à partir de 700 000 ans. Comme exemple d'adaptation, vous voyez les dents dont je vous parlais. Les dents de mammouth des steppes, vous ne pouvez pas les confondre avec celles d'un mammouth méridional parce qu'elles sont très très hautes. Et il a un nombre de lames d'émail qu'on voit ici, qui est compris entre 14 et, on va dire, une vingtaine de lames d'émail, alors que chez le mammouth méridional, il y en avait une dizaine. Donc, vous voyez qu'il mange de l'herbe, des végétaux qui vont être abrasifs, qui vont user énormément l'émail des dents. Ce mammouth des steppes, c'est celui qu'on a trouvé à Noyac en 2008. Peut-être vous avez entendu parler de la découverte de ce crâne-là. Noyac, c'est un mare aussi, comme Saint-Front. Hein. Ce sont à l'intérieur d'un cratère qui a été rempli par un lac. Et au bord de ce lac, les animaux venaient boire et venaient mourir, certains. Mourir embourbés, notamment. Donc ça, c'est une aquarelle du mare de Noyac. Et on a entamé des fouilles en 2008, puisqu'on avait été alerté de la présence d'un mammouth. Il y a eu des premiers travaux qui ont été faits, en tout cas des travaux de voirie en 1986 sur Noyac. Et en creusant une tranchée, ils ont trouvé des molaires et un énorme tas d'os à côté. Ils ont pris les molaires, en tout cas la drague, ceux qui surveillaient le chantier, et ont laissé l'amas d'os, le gros crâne en tout cas, sur place. Ils ont bouché la tranchée, ils sont repartis. On m'a amené les deux molaires du mammouth de Noyac en 2007. C'est les deux molaires, enfin c'est une des molaires que je vous ai montré juste avant, celle-ci. Et quand on m'amène cette molaire-là, on me dit, ben tiens, un mammouth. Je vois, c'est cool. Un nouveau mammouth en Haute-Loire, sauf qu'en regardant de plus près, vous apercevez très vite que c'est pas un mammouth méridional. Le mammouth méridional, on en trouve absolument partout en Haute-Loire. Du mammouth laineux, il y en a aussi un petit peu partout. Alors que le mammouth des steppes, on n'en avait jamais trouvé en France. On le connaît très bien en Chine, en Europe de l'Est, On a des quantités incroyables de dents et de squelettes de cet animal-là en Chine et en Europe de l'Est, et on n'avait jamais découvert de crâne entier. Cette molaire-là, les deux molaires qu'on m'amène, c'est des molaires supérieures. On me dit à côté, il y a peut-être un crâne parce qu'il y avait tout un tas d'os. Donc, on peut supposer que ces molaires étaient encore attachées à un crâne et que c'est la pelleteuse qui les a détachées du crâne. Donc, le premier travail, après toutes les autorisations qu'il faut demander pour pouvoir refaire les fouilles, c'est de retrouver cette ancienne tranchée qui a été creusée en 86, d'abord à la pelle et à la pioche. Une fois qu'on a retrouvé la tranchée, de retrouver les niveaux fossiles où peuvent se trouver les restes d'un mammouth des steppes. Donc on fouille, vous voyez, comme doivent fouiller des archéologues, on fait des petits carrés de 1 mètre sur 1 mètre, on utilise des outils comme des tournevis, des outils de dentiste pour gratter les caries, des pinceaux, des petites pelles, on ramasse toute la terre qui sort des fouilles. Toute cette terre, tous ces sédiments, on va les tamiser comme des orpailleurs, pas pour trouver de l'or, mais pour trouver ce qu'on appelle la microfaune. La microfaune, ce sont des restes de dents, de squelettes, des serpents, donc des reptiles, des batraciens, des oiseaux, des lapins aussi, on peut retrouver à l'intérieur, et des petits rongeurs. Et ça, c'est très très important pour nous, parce que ces animaux-là, et notamment les petits rongeurs, on dit que ce sont des très bons marqueurs, des biomarqueurs. Pour une certaine moyenne de température et d'humidité, on va retrouver une certaine espèce de rongeur. Si vous changez cette température et cette humidité, ne serait-ce que de 1 ou 2 degrés, vous aurez une autre espèce de rongeur. Donc pour nous, c'est très important, parce que le fait de retrouver une toute petite dent qui mesure 1 mm, ça va nous permettre de vous dire la température qu'il faisait à l'époque du mammouth des steppes de Noyac, juste avec une petite dent. Donc c'est un travail qui n'est pas très passionnant, de fouiller de la terre comme ça et de la passer sous l'eau. C'est un peu rébarbatif, mais le fait de trouver juste une dent, ça peut nous expliquer tout un tas de choses. Très rapidement, quand on a retrouvé la tranchée, on a vu c'est un énorme amas osseux. Et cet énorme amas osseux, on s'est très vite rendu compte que c'était un crâne de mammouth. Pourquoi ? Parce qu'on a vu ici des grandes alvéoles. En fait, ces grandes alvéoles, ces grands tubes en os qui servent à tenir les défenses. On a remarqué aussi au centre, par là, un énorme trou. C'est la fosse nasale, c'est là où vient s'insérer la trompe. Et quand vous avez des tubes qui servent à tenir des défenses et un trou au milieu du crâne où vient s'insérer une trompe, vous avez forcément un crâne de mammouth. Ça ne peut pas être autre chose. Donc, on s'est attaché à dégager ce crâne de mammouth le plus vite possible. On n'avait que 15 jours pour faire les fouilles. Donc, on a plutôt travaillé sur le crâne de mammouth. Il a fallu étayer, consolider ce bloc de terre, d'argile, de sable, puisqu'il pesait plus de 1000 kilos. Pour pouvoir l'enlever du site, on était obligé de lui fabriquer une coque en plâtre. On a rajouté 250 kg de plâtre au-dessus pour pouvoir le protéger et le lever. Et c'est seulement grâce à une grue, un camion avec une grue, qu'on a pu lever ce crâne de 1250 kg, en fait, pour pouvoir l'emmener jusqu'au musée. Et c'est au musée qu'on a fait le dégagement du crâne, la restauration, qui était présentée à l'exposition d'ailleurs. Le crâne, on le voit sur la gauche. C'est le crâne le plus complet. Il n'est pas entier, il est aux trois quarts entier. Mais c'est le crâne le plus complet qui existe du mammouth des steppes. Avant, on ne connaissait absolument pas à quoi ressemblait le mammouth des steppes. On connaissait que ses dents et son squelette, mais on n'avait aucune idée de sa tête, en fait, pour tout dire. Et c'est grâce à ce crâne-là qu'on a pu reconstituer l'allure du mammouth des steppes et on sait à quoi il ressemble maintenant. Le mammouth de Noyac, c'est la seule représentation d'un mammouth des steppes. Si vous ouvrez un livre, un jour vous achetez, et vous avez un dessin d'un mammouth des steppes, c'est pas n'importe quel mammouth des steppes, ça ne peut être que le mammouth de Noyac, puisque c'est le seul dont on connaît le crâne. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est un crâne qui était important. Après, il s'est dit plein de choses sur ce mammouth des steppes, comme quoi c'était le chaînon manquant de l'évolution des mammouths. J'aime pas trop ce terme-là, puisque Si vous avez un chaînon manquant quelque part et que vous le trouvez, vous allez en créer deux autres de chaque côté. Donc, du coup, il en manque encore deux. Donc, on va passer le chaînon manquant du mammouth, de l'évolution des mammouths. Il y a à peu près 400 000 ans, le climat va encore changer. C'est la première grande glaciation qui va apparaître. Cette première grande glaciation, elle va modifier le climat, encore une fois. Là, pour le coup, il va faire un peu plus froid et surtout plus sec. L'environnement va se modifier. La steppe va se modifier dans la composition des plantes et on va retrouver ce qu'on appelle une steppe à mammouth. C'est un environnement qui n'existe plus aujourd'hui. Donc une nouvelle nourriture. Le mammouth va s'adapter à un nouveau climat, un nouvel environnement, une nouvelle nourriture. Il va donc évoluer. Il va évoluer en un mammouth laineux. Mammouth laineux, c'est plus facile, c'est celui que tout le monde connaît quand on vous parle mammouth. C'est l'image que vous avez des mammouths, c'est cette grande peluche avec tous ces poils-là. C'est le mammouth laineux. Il est un peu plus petit que le mammouth des steppes. Il ne mesure que 2,80 m de haut, 2,70 m, 2,80 m pour en gros 4000 kg. Et c'est l'animal le mieux adapté à des conditions froides et sèches qui ait jamais existé. Pour plusieurs raisons, il y a des choses qui sont très visibles et très faciles à comprendre. On parlera peut-être des poils un peu plus tard. En tout cas, vous voyez qu'il a des toutes petites oreilles. Les autres mammouths, les éléphants en Afrique, ont des très grandes oreilles. Pourquoi ? Parce que ce sont des animaux qui ne peuvent pas transpirer. Donc pour réguler la température de leur corps, ils sont obligés de faire circuler le sang dans les oreilles et de bouger les oreilles comme ça, comme un ventilateur en fait. Sauf que quand il fait moins 20, moins 30 et que vous bougez les oreilles, avec du sang à l'intérieur, elles vont geler, vous allez mourir de froid. Donc pour s'adapter à ces conditions de température et de sécheresse, les mammouths vont réduire petit à petit la taille de leurs oreilles. Et les oreilles d'un mammouth laineux, ça mesure 20-30 cm, alors qu'elles atteignent jusqu'à 1,20 m chez l'éléphant d'Afrique, d'accord, qui vit sous un climat chaud, par exemple. Le fait d'être plus petit aussi, c'est une adaptation au froid. Vous dépensez moins d'énergie, vous avez besoin de moins d'énergie pour garder une température constante dans une pièce que dans toute une maison. C'est la même chose avec une diminution de taille chez les animaux. Ça, c'est mon idée, ça. Le mammouth laineux, c'est celui qu'on retrouve aussi en, en très grand nombre en Sibérie. Cette photo-là, elle est prise dans une sorte de conservatoire qu'on a au nord de la Sibérie, au nord de la Russie, dans une péninsule qui s'appelle le Taïmyr, pas très loin de chez les Dolgan, qui étaient venus ici. Cette cave, elle est creusée dans le sol. Le sol là-bas, on l'appelle le permafrost. Le permafrost, c'est un sol qui est gelé en permanence. Il est en permanence entre moins 13 et moins 18 degrés. Donc c'est un territoire qui fonctionne comme un congélateur à ciel ouvert. Tout ce que vous trouvez dedans va être conservé comme dans votre congélateur. Donc quand on n'a pas de chance, on va dire, en Sibérie, vous allez retrouver des crânes, des défenses, des os, des molaires. Tout ça, on en retrouve, je vous dis, en quantité incroyable. Quand on a un peu plus de chance, c'est un peu plus rare, on va retrouver des animaux entiers avec les poils, la peau, les muscles et tous les organes internes. Ce dessin-là, ce n'est pas un dessin qui a été créé par un artiste, mais c'est un dessin qui a été fait d'après un vrai mammouth découvert congelé. Le mammouth laineux, il ressemble vraiment à ça et à rien d'autre. D'accord ? Donc on va retrouver des mammouths congelés. On ne retrouve pas que des mammouths en Sibérie, hein, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas que des mammouths qui vivaient. On retrouve également du rhinocéros congelé. On retrouve du bison, du bœuf musqué, de l'élan, du renne, de l'ours et de loup. Et du loup, pardon. Certains de ces mammouths-là ont été très, très médiatisés, notamment Jarkov. Il y a eu plusieurs reportages sur Jarkov. C'était, on va dire, l'extraction la plus impressionnante puisqu'il a fallu faire appel au plus gros hélicoptère du monde pour sortir ce cube de glace de 22 tonnes et pouvoir le lever et le sortir de là. Jarkov, ce mammouth-là, il a été découvert par des Dolgans qui s'appellent la famille Jarkov et un des deux Dolgan qui est venu l'année dernière à Tence, c'est le patriarche de cette famille. Il s'appelait Jarkov, Piotr Jarkov. Les mammouths en Sibérie ne sont pas trouvés par les scientifiques. Hein. C'est un territoire qui est immense. Le Taïmyr, d'où vient Jarkov, c'est une fois la France. Et je ne sais pas le nombre d'habitants qui est dans le Taïmyr, mais ça ne doit pas aller bien loin. L'autre territoire sur lequel on travaille, qui s'appelle la Yakoutie, c'est 6 fois la France et c'est la population... Il y a 3 millions d'habitants, en fait, en Yakoutie, pour un territoire qui fait 6 fois la France. Donc, vous voyez, ce n'est pas des territoires où on peut aller en se disant « On va aller dans ce coin-là et on va trouver du mammouth, c'est impossible. » Donc, ce sont seulement les nomades qui, chaque 8 jours, 10 jours, vont bouger leur troupeau de rennes pour leur donner à manger un peu plus loin, qui vont parcourir tous ces territoires-là et de temps en temps, ils vont tomber sur des défenses, sur une carcasse de mammouth, de rhinocéros ou je ne sais pas trop quoi. Eux, à ce moment-là, ils vont appeler les autorités locales qui appellent les scientifiques, donc nous. Et après, on va sur place et on fait les fouilles. D'accord ? Mais ce n'est jamais nous qui trouvons les mammouths, c'est toujours les peuples nomades. Et on trouve aussi des bébés mammouths. Ce bébé mammouth-là, c'est Chroma. C'est celui qu'on avait au puits l'année dernière. Chroma, c'était le dernier bébé mammouth qui était découvert en Yakoutie. Il a été découvert en 2009. Ouais. Et c'est également le plus vieux bébé mammouth qui existe. Tout ce qu'on trouve en Sibérie, on va le dater avec une méthode qui s'appelle le carbone 14. Et le carbone 14, il nous permet de dater jusqu'à 45-50 000 ans maximum. Et les premières analyses, les premières datations sur Chroma montraient qu'il était en dehors des limites de datation du carbone 14. Donc Chroma a peut-être 51 000 ans, mais il a peut-être 60, 70 000, 90 000, 120 000 ans. On ne sait pas l'âge de Chroma tout de suite. On le saura bientôt, mais on ne le sait pas encore. Donc c'est le plus vieux bébé mammouth qui existe. On pensait même pas en fait qu'il pouvait y avoir du permafrost aussi vieux en Sibérie, parce qu'on n'avait pas de traces de formation de ce sol aussi vieux que ça. C'est important d'un point de vue scientifique, parce que grâce à Chroma et grâce à toutes les informations qu'il va nous donner, on va pouvoir recréer un monde entier, son environnement, la population qui y vivait. C'est un monde dont on n'a aucune information. On ne connaît rien de ce monde dans lequel vivait Chroma. Si vous voulez, après, on pourra en parler un petit peu plus. J'ai amené quelques photos de l'autopsie de Chroma, du scanner de Chroma. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer ce qu'on a trouvé dans Chroma. C'est aussi le bébé mammouth le mieux conservé au point de vue de ses organes internes, puisque tout était en parfait état. Il n'a jamais subi ce qu'on appelle, en termes de surgelé, de rupture de la chaîne du froid. Vous rigolez, mais c'est ça en fait. Hein. Donc c'est comme un petit lapin que vous avez dans votre congélateur et que vous ressortez 2 ans après pour le manger. Chroma, c'était ça. Quand on l'a ouvert, il y avait du sang encore à l'intérieur. Il était en parfait état de conservation. Alors que s'il avait été décongelé une fois, tout aurait été oxydé, on aurait retrouvé pas de sang du tout, ça c'est sûr, mais en tout cas des organes déjà altérés, en fait. C'est ce qui peut leur arriver de pire, hein, la décongélation, recongélation, c'est le pire qui puisse arriver. Ensuite, Chroma, il a une histoire aussi qui est plutôt sympathique, puisqu'il a été découvert par un autre peuple nomade qui s'appelle un Yakout, qui partait à la chasse. Et en partant à la chasse, il a vu un renard polaire au loin, qui était en train de gratter le sol ou de manger quelque chose. Il s'est approché, il a fait fuir le renard, et il a vu en fait que ce renard polaire était en train de manger la bosse de graisse qu'il y a derrière la tête et la trompe de Chroma. Quand je vous ai dit qu'il était encore comestible, c'est vrai, c'est que le renard, il était en train de le manger. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas sa bosse de graisse, qu'il n'a pas sa trompe, ça a été mangé par un renard en 2009. Comment est-ce qu'est mort Chroma ? On le sait aussi, il a été trouvé au bord d'une rivière, qui s'appelle la rivière Chroma. On leur donne en général le nom, soit des gens qui le trouvent, soit du lieu où on les trouve. Là, c'est au bord d'une rivière qui s'appelle la rivière Chroma, et au pied d'une falaise de 10 mètres. C'est un jeune mâle qui a entre 1 et 2 mois, et qui vraisemblablement est tombé de la falaise et s'est cassé le dos. Vous voyez qu'au centre, c'est fracturé, la colonne vertébrale a été fracturée et il est dû mourir sur le coup. On le verra tout à l'heure dans les images au scanner en trois dimensions, le traumatisme qu'il a subi, il est cassé en deux, il s'est cassé le dos et son bassin est complètement tourné. Il est tout vrillé, vous voyez au bout là-bas. On dirait, en fait il a une allure un peu bizarre parce qu'on dirait un lapin en train de sauter comme ça. Alors il faut imaginer que si vous prenez son bassin qui est tourné comme ça et que vous le remettez dans sa position normale, vous lui enlevez 60 cm et il est beaucoup plus court en fait. Là il est tout étiré en long. Voilà, il est reparti en yakoutique, Romain. On peut parler des poils aussi comme d'une adaptation. On sait avec ce qu'on trouve en Sibérie et notamment... Ben aussi avec Chroma, que les mammouths ne sont pas noirs, ils sont pas blancs, ils sont pas gris, ils sont roux, ils sont marrons, ils sont bruns en fait. On retrouve trois couches de poils différentes. La première couche qui est sur le cuir qu'on appelle la laine en fait, qui fait 8 cm à peu près et qui sert à garder la chaleur. D'accord ? Et par-dessus ces poils-là qui sont très denses, vous avez d'autres poils beaucoup plus longs qu'on appelle la surfourrure et qui eux servent à le protéger des conditions extérieures, du vent, du gel, de la pluie, de la neige, etc. Vous rajoutez un cuir qui fait 5 cm et en gros 10 cm de graisse et vous avez 30 cm d'épaisseur de protection contre le froid. Tout à l'heure je vous ai dit que ces mammouths, les nœuds, notamment en Sibérie, vivaient dans un environnement différent qu'on appelle la steppe à mammouth. La steppe à mammouth, on la connaît très très bien, parce que dans les estomacs des mammouths, on retrouve des restes de plantes, c'est ce que vous voyez en haut à gauche. On retrouve aussi des pollens, c'est ce qu'il y a, les photos en haut à droite. Et cette steppe à mammouth, elle nous permet aussi d'expliquer la fin des mammouths. Pourquoi ? Parce que au dernier réchauffement climatique, la steppe à mammouth, petit à petit, va diminuer sa surface et remonter de plus en plus au nord. Elle va se retrouver isolée, avec des petits territoires où on retrouve cette nourriture-là. Notre mammouth, qui est très adapté à ces conditions froides, sèches et à cette nourriture, va se retrouver également isolé sur ces petits territoires où il a sa nourriture préférée. Vous avez des petites populations qui vont se former. Il n'y a plus de brassage génétique à l'intérieur. Et donc les populations, petit à petit, vont décliner et disparaître. Tout ça pourquoi ? Parce que c'est le réchauffement climatique ne permet pas à cette steppe à mammouth de pousser n'importe où. Dans la steppe à mammouth, on retrouve essentiellement des plantes qui poussent en milieu froid et sec. D'accord ? Donc c'est un petit peu à cause du réchauffement climatique que les mammouths vont disparaître petit à petit. Ils vont se retrouver pousser de plus en plus au nord. Au nord, ces territoires vont se morceler. Le brassage génétique ne va pas être suffisant et ils vont disparaître. C'est en fait parce que le mammouth, laineux, n'a pas réussi à s'adapter à un changement climatique, à un nouvel environnement. Si vous allez aujourd'hui en Sibérie, vous ne verrez pas de steppe ni de steppe à mammouth, mais une toundra. La toundra, c'est du lichen. Lichen, c'est un champignon, c'est très très pauvre. Dans une steppe à mammouth, vous avez plusieurs dizaines de variétés de plantes différentes qui sont très riches, très minéralisées. Donc il n'arrive pas à s'adapter à ce nouvel environnement, à ce nouveau climat et à une nouvelle nourriture. Et quand on ne s'adapte pas à ces trois conditions-là, ça veut dire qu'on n'évolue pas. Et quand on n'évolue pas, on disparaît. Ça, c'est un peu une maxime ou... Mais c'est réel, hein. L'évolution c'est un processus qui est nécessaire. Si vous évoluez pas, vous disparaissez. On parle souvent, je crois que c'est Jacques Monod qui disait, l'évolution c'est hasard et nécessité. Il avait raison parce que c'est pas de votre faute si le climat change, si l'environnement change, si votre nourriture elle change. Nécessité, même. Ben, il est nécessaire de s'adapter à ces trois conditions-là. Si vous ne vous adaptez pas à tout ça, soit vous migrez, et c'est ce qui est arrivé pour certains de ces animaux qui vivent en Sibérie, soit vous disparaissez. D'accord ? L'évolution, c'est un processus qui est nécessaire.
obligatoire.
Après, je ne vous ai pas parlé des défenses encore. Les défenses sont des dents, des incisives, qui sont extrêmement importantes pour nous, parce qu'elles vont être un véritable enregistreur de tout ce qui se passe dans la vie d'un mammouth. Ce sont des dents, donc vous avez d'abord des défenses de lait qui vont tomber. Et lorsque la défense définitive va apparaître, elle va pousser jusqu'à la fin de la vie du mammouth. Elles sont en croissance continue. Plus le mammouth va être vieux, plus ses défenses vont être longues et grosses. Chez les vieux mâles mammouths laineux, les défenses peuvent atteindre jusqu'à 3,50 m de long et peser jusqu'à 120 kg. C'est de l'ivoire pur. L'ivoire, on peut considérer ça, même certains le considèrent ça, comme un minéral organique. Ça enregistre tout. Qu'est-ce qu'on peut savoir avec une défense ? D'abord, on va faire de l'échantillonnage qui part du bout de la défense, donc la première année où la défense définitive va apparaître, jusqu'à la base de la défense. La base de la défense, en fait, c'est la dernière année de vie du mammouth. D'accord ? Dans une défense, vous arrivez à enregistrer si votre mammouth a mangé à sa faim, s'il n'a pas souffert de famine, de disette, s'il a été malade, quel type de maladie il a eu, quel type d'eau il a bu. On sait si c'est une femelle, combien d'enfants elle a eu, si elle a été au bout de la gestation, si elle les a allaités, combien de temps elle les a allaités. On arrive même à trouver la latitude à laquelle ils ont vécu chaque année. Et en fait, on arrive à être même plus précis que chaque année. C'est pour chaque saison, on peut arriver à donner ces informations-là. D'accord ? Pourquoi ? Parce que toutes ces informations-là, elles vont modifier la structure et la composition chimique de l'émail, du minéral. Donc, il suffit d'analyser la structure et la composition chimique de l'ivoire. Et vous savez tout ce qui s'est passé dans la vie du mammouth. Et sur Chroma, notamment, sur les défenses de lait, on arrive à remonter quelques mois avant la naissance. Donc on sait ce qui s'est passé dans la vie du bébé mammouth et donc de sa mère, même avant qu'il naisse. Donc c'est très très important et ça donne des résultats qui sont fantastiques. Enfin, le mammouth laineux, c'est un animal qui a eu le plus de relations avec l'homme. Avec l'homme préhistorique, avec Néandertal et l'homme moderne aussi, les autres mammouths pas trop, mais lui en tout cas oui. L'homme s'est servi du squelette des mammouths pour notamment fabriquer des cabanes. On retrouve en Ukraine plusieurs sites où on a des cabanes entières fabriquées avec des os de mammouths. La plus grande fait 12 mètres carrés, il y a 28 mammouths dedans, 12 mètres de diamètre, pardon. Et il y a 28 squelettes de mammouth à l'intérieur. Si vous regardez la photo, ou le dessin plutôt, vous voyez que toutes les parties du squelette sont utilisées. Il y a des crânes, il y a des omoplates, il y a des défenses, il y a des fémurs, il y a des humérus, il y a des mâchoires, il y a des bassins. Tout est utilisé pour fabriquer cette cabane en os de mammouth. L'homme a également utilisé l'ivoire des défenses pour faire de l'art, pour faire des sculptures. Et des Vénus, les Vénus, certaines sont faites en ivoire de mammouth. Les Vénus sont également importantes puisqu'elles sont censées représenter la première trace de la religion. On parle de traces fossiles de la religion avec ces Vénus-là. Elles représentent la déesse terre, la déesse mère, vous savez, celle qui est symbole de fertilité, qui existe chez toutes les religions primitives. C'est pour ça qu'elles sont toujours bien portantes. Notamment avec ce symbole de fertilité, quand elles sont faites en ivoire de mammouth, c'est encore mieux pour nous. Avec les Vénus, on va aussi rentrer dans le domaine de l'histoire de l'art, plus vraiment dans le domaine scientifique. Donc vous pourrez trouver plusieurs interprétations de ces Vénus-là. Il y en a qui ne sont pas forcément celles que je viens de vous dire avec les premières traces d'une religion. Vous pourrez lire aussi que ce sont peut-être des amulettes, que les chasseurs recevaient quand c'était de très bons chasseurs. Il y a tout un tas de choses un peu plus ou moins délirantes, en fait, qui parlent de ces Vénus-là. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi est-ce que l'homme pouvait utiliser tout ça? Les carcasses des mammouths, l'ivoire des mammouths, parce que l'homme était un des prédateurs du mammouth. On pense que l'homme moderne, Homo sapiens, pouvait chasser le mammouth. Et dans la chasse, moi j'insiste beaucoup pour parler du piégeage. L'homme, comme tous les prédateurs, avant de s'attaquer à un animal, il va faire un calcul tout simple. C'est l'énergie dépensée et l'énergie qu'il va recevoir. Si vous partez, comme c'est dessiné ici, un homme ou un groupe d'hommes avec une lance et un bout de caillou taillé au bout, à la chasse d'un mammouth puissant comme celui-ci, vous verrez que l'énergie dépensée et le risque de se faire tuer, il est très important pour une quantité de viande supposée que vous allez ramener. Tandis que si vous piégez les mammouths, et on a plus de preuves de piégeage des mammouths, vous avez beaucoup moins de danger et vous êtes sûr de manger. Sinon, il vaut mieux aller chasser un chevreuil qu'un mammouth, c'est moins dangereux. Mais l'homme pouvait chasser, pouvait piéger les mammouths, c'est un des trois prédateurs du mammouth, et c'est pour ça qu'il a pu utiliser les carcasses et l'ivoire des mammouths. Mais je vous dis, encore une fois, le piégeage, c'est quand même la solution à retenir hein, par rapport à la chasse au mammouth. Les deux autres prédateurs du mammouth, ça c'est une peinture ou une photo qu'on aurait pu prendre à Espaly ou dans la vallée de la Loire. Le prédateur que vous voyez en haut à droite, je ne sais pas si vous le reconnaissez celui-ci. Comment ? C'est un lion, c'est le lion des cavernes. Le lion des cavernes pouvait être un prédateur du mammouth. Pourquoi ? Ben d'abord parce que le lion des cavernes, il est deux fois plus gros que le lion actuel. C'est un animal qui chasse en groupe, donc ils peuvent se mettre à 6, à 7, à 8 pour isoler un bébé mammouth du reste du troupeau ou pour s'attaquer à un vieux mammouth plus faible, plus fragile. Il est très puissant, hein, deux fois plus gros qu'un lion actuel. Je ne sais pas si vous avez déjà approché un lion en vrai. C'est déjà très très gros. Et le dernier prédateur du mammouth, c'est celui qu'on voit en bas à gauche, c'est le tigre à dents de sabre, qu'on appelle tigre à dents de sabre, mais c'est aussi une faute de langage, puisque c'est un animal qui est plus proche du lion que du tigre. En fait, on devrait dire félin à dents de sabre. Il est plus proche du lion que du tigre, et donc c'est un animal qui peut chasser en groupe, en tout cas les femelles, puisque les mâles ils sont plutôt feignants et ils regardent les femelles travailler chez ces animaux. En tout cas, les femelles peuvent se mettre à 6, à 7, à 8 pour, pareil, isoler les bébés mammouths ou s'attaquer aux mammouths plus âgés. On a des traces, des preuves de ces chasses-là, notamment avec les traces des dents sur les os, hein, qui sont caractéristiques de ces animaux-là. C'est les deux seuls qui sont assez puissants. Un tigre à dents de sable, ça fait quasiment 1,50 m de haut, hein, au garrot. Donc c'est plutôt plausible. Ces deux-là, plus l'homme, sont les seuls prédateurs qu'on connaît. Pour revenir à l'art, puisque le mammouth a également été dessiné dans les parois des grottes, notamment à la grotte Chauvet, qui est en Ardèche, et la grotte de Rouffignac, que je vous conseille d'aller visiter. Dans ces deux grottes-là, vous avez 90% de toutes les représentations de mammouth en Europe, en peinture, dessin ou gravure. Comme pour les Vénus, on va rentrer ici dans le domaine de l'histoire de l'art. Il n'y a pas une seule explication, il y a plusieurs interprétations à ces peintures, à ces gravures, à ces dessins. Vous allez pouvoir acheter 15 livres sur les peintures et vous aurez 15 explications différentes. D'accord ? Il n'y a pas une seule vérité, mais c'est un petit peu à chacun de s'intéresser à tout ça et de trouver l'explication qui lui plaît le plus. Par exemple, vous allez trouver beaucoup d'interprétations de ces peintures qui vont parler de chamanisme, de religion. Il y a une âme dans ces animaux, on va les peindre, les dessiner, les graver en sorte d'offrande, de prière. D'accord ? Il y a un petit peu de chamanisme, d'animisme mélangé dans tout ça, dans ces explications-là. C'est notamment pour la grotte Chauvet, ce qu'a écrit Jean-Claude. Il y a d'autres explications plausibles, notamment quand vous voyez le mammouth qui est dessiné à Rouffignac, vous voyez qu'il ressemble quand même étrangement de très très près au mammouth que je vous ai montré tout à l'heure, qui a été dessiné d'après une vraie carcasse. Hein. C'est beaucoup plus naturaliste, d'accord, c'est pas la même période non plus, mais il y a quand même un souci du détail qui est impressionnant. Il y a des vraies scènes de vie aussi à Rouffignac, et certains des chercheurs qui travaillent dessus pensent qu'à Rouffignac, on pouvait assister à peut-être des cours, à la première leçon de choses de la préhistoire, où des hommes, puisqu'il n'y a que trois peintres ou dessinateurs dans toute la grotte de Rouffignac, qui expliquaient aux gens de leur groupe, tel animal on peut le chasser, tel autre est un peu plus dangereux, celui-ci il vit comme ça, etc., etc. C'était peut-être des explications naturalistes sur les animaux, comment est-ce qu'ils vivaient, lesquels on pouvait chasser et comment est-ce qu'ils vivaient. C'est une autre explication. Comme pour les Vénus, vous avez des explications plus religieuses et d'autres un peu plus pragmatiques. Donc moi, je ne vais pas vous dire laquelle j'adhère le plus, parce que ça n'a aucun intérêt. Je vous dis, c'est à vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que les mammouths, même au temps de la préhistoire, c'était quand même des animaux qui étaient un petit peu fantastiques, même pour l'homme préhistorique. Quand vous êtes en Dordogne, en Ardèche ou en Haute-Loire, il y a 15, 30 000 ans ou 60 000 ans, c'est pas des animaux que vous voyez tous les jours, les mammouths. Peut-être vous les croisez 2-3 fois dans votre vie. Et quand vous habitez dans une vallée, on va imaginer la vallée de la Loire, et que vous entendez un groupe de 20 mammouths de 4000 kilos qui arrivent au loin, ça doit faire du bruit, ça doit faire peur aux enfants, ça doit être un petit peu l'événement de l'année. Donc c'est toujours un animal qui était extraordinaire. Yves Coppens, il dit aussi que il imagine bien les bébés hommes préhistoriques jouer avec des peluches en mammouth, comme nos enfants jouent avec des peluches en d'ours ou tout autre animal. Donc c'est toujours un animal qui a suscité l'attention et l'intérêt des gens, même autant des hommes préhistoriques. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir, parce qu'on a encore plein de choses à découvrir grâce à eux, peut-être grâce à Cro-Magnon, mais c'est quand même un animal qui est fantastique. Voilà. J'ai fait le tour un petit peu avec l'histoire des mammouths. Si ça vous intéresse que je vous montre un peu plus les études qu'on a fait sur Chroma, l'autopsie, le scanner, tout ça, oui ? Oui, oui. Voilà, donc ça c'est Chroma tel qu'il était présenté dans la vitrine au musée Crozatier. Je vais passer vite, ça c'est l'histoire des bébés mammouths découverts. Le premier bébé mammouth s'appelait Dima, il a été découvert en 1977 dans un territoire qui s'appelle le Magadan. Ensuite, on a trouvé Macha, Yom Yakon, Liuba, c'est le dernier bébé mammouth avant Chroma. C'est le bébé mammouth le mieux préservé à l'extérieur. Hein, c'est le plus joli, en fait, on va dire, des bébés mammouths. Il est parfaitement conservé, mais par contre, à l'autopsie ou au scanner, il était beaucoup moins bien conservé que Chroma, et on a beaucoup moins d'informations avec Liuba qu'avec Chroma. Mais c'est le plus joli, c'est aussi une petite star, Liuba, parce qu'il a fait l'objet de plein de reportages, notamment avec National Geographic. Il est parti aux États-Unis, il a été scanné à Tokyo, autopsié à Saint-Pétersbourg, il a traversé le monde déjà, en fait, Liuba. Donc c'est un petit peu une star, il a été trouvé par les gens que vous voyez en photo, là. C'est très typique de l'habit de ces nomades qu'on retrouve et qui trouve nos bébés mammouths avec des habits en peau de renne. Donc le permafrost, je vous en ai déjà parlé. Les découvreurs, donc c'est les éleveurs de rennes. Il reste que 24 populations nomades en Sibérie qui sont en décroissance, hein, forcément. Ça n'intéresse plus beaucoup les jeunes d'élever du renne et de vivre dans des tchoums à moins 45 degrés, sans eau, sans électricité, la plupart du temps. C'est une vie qui est difficile. Hein. Le renne, ça vous apporte tout ce que vous avez, c'est-à-dire que vous mangez du renne, vous habillez renne, et vous n'avez rien d'autre. Il ne mange pas de légumes, il n'y a pas de lait, enfin, c'est une vie particulière quand même. La Yakoutie, donc c'est ce territoire en rouge, je vous ai dit tout à l'heure, qui est grand comme 6 fois la France et qui a 3 millions d'habitants. En Yakoutie, ça fait 25 ans qu'on trouve entre 15 et 20 tonnes d'ivoire par an. 15 et 20 tonnes d'ivoire, ça fait des milliers et des milliers de mammouths quand même. Hein. Et ça fait 20 ans qu'on trouve cette quantité-là. C'est un peu le seul territoire pour lequel on a des chiffres en fait. L'ivoire peut faire l'objet d'un commerce, puisqu'il y a des autorisations de commerce. Je vous ai dit que c'est considéré comme un minéral, comme un minerai même. Donc ils peuvent délivrer des autorisations de vente et d'exportation. Surtout que le mammouth, c'est un animal qui n'est pas protégé, parce qu'il a disparu. Donc on ne peut pas protéger l'animal qui a disparu. Donc l'ivoire va partir pour 99% en Chine pour les sculptures. En ivoire qui sont vendus aux touristes après. Parce que l'éléphant, ils n'ont pas le droit. Ça, c'est Chroma lors de sa découverte avec le professeur Lazarev qui l'a fouillé. Vous voyez qu'il est encore recouvert de tout son permafrost, encore dans sa terre. Voilà. Chroma avec le permafrost. Vous voyez que c'est de la glace, hein, c'est de la terre congelée en fait, hein, le permafrost. On a fait des premières analyses à Yakoutsk, dans une chambre froide. Alors c'était plutôt marrant parce que c'était à la russe avec une perceuse Bosch. Ça m'a fait bien. Enfin, ça m'a pas fait rire sur le coup, mais, en fait. Mais bon, c'était comme ça. Je vous passe toutes les péripéties. Bon, là, on a fait des premières analyses qu'on appelle biométriques. On mesure le mammouth. C'est dans sa cave, dans le permafrost en Yakoutie, et on l'a amené en France. Je vais vous passer les péripéties administratives et compagnie, et tout ce qui a tourné autour de Chroma. Il est arrivé en France où on a fait des premiers échantillonnages à Grenoble, puisqu'à Grenoble, on l'a amené au CEA, dans un centre qui s'appelle Arc Nucléaire, puisque Chroma a été stérilisé. Pour plusieurs raisons. D'abord, Chroma, c'est de la matière organique. Et quand vous importez de la matière organique en dehors de l'Europe et que vous la faites rentrer en Europe, vous avez normalement une quarantaine. Si vous achetez un chien en Russie, il va subir une quarantaine. Il faudra des services vétérinaires pour dire, voilà, il a passé tous les tests, il est en bonne santé, vous ne pouvez pas être contaminé, il n'y a pas de maladie, etc., etc. Pour Chroma, ça ne servait à rien de faire passer une quarantaine. Mais par contre, derrière, il fallait stériliser. De la même façon, quand Ramsès II, la momie, est venue en France, elle est partie d'Égypte pour entrer en Europe, elle est passée au même endroit pour se faire stériliser. Stériliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire la bombarder aux rayons gamma. Et les rayons gamma, on dit qu'ils sont biocides, ils tuent tout ce qui est vivant. Donc ça tue les champignons, les insectes et les bactéries. Et donc c'était aussi un moyen de conservation du bébé mammouth. Comme Ramsès en fait. Pour Ramsès, c'était aussi pour éliminer les champignons qu'il y avait à l'intérieur. Nous, on n'avait pas peur des champignons parce que il était quand même conservé à moins 18 degrés, mais c'était pour tout ce qui était bactéries et peut-être parasites en fait. Donc il a été nettoyé et on a pu l'amener ensuite. Ça, c'est comment fonctionne le rayon gamma. On a pu l'amener au puits, il a été exposé. Et le dernier week-end du mois d'août de l'année dernière, on a commencé le travail sur Chroma qui est constitué d'abord par le faire passer un scanner. Un scanner pour plusieurs raisons. C'est que le lendemain, en tout cas la nuit du lendemain, on devait faire une autopsie. Et pour avoir une cartographie de son corps, il fallait qu'on ait un scanner, qu'on sache où se trouve exactement chaque organe. Je vous dis, il y a eu une seule autopsie qui a été faite auparavant, qui était sur Lyuba à Saint-Pétersbourg. Et on avait avec nous une personne qui a fait l'autopsie. C'est le monsieur avec la barbe, c'est un Américain. C'est le seul qui avait fait une autopsie auparavant sur un bébé mammouth. Donc nous, il fallait qu'on ait une cartographie de Chroma. Ça nous sert aussi à reconstituer ensuite les animaux en trois dimensions. Et avoir d'autres informations qu'on verra plus tard. Donc on l'a fait passer sur un scanner comme un homme, comme un être humain. Sauf qu'on a emballé le scanner avec de la matière plastique, c'était stérilisé. Chroma était aussi dans un plastique où il n'y avait pas d'échange avec l'extérieur. Alors, de temps en temps, on me disait, oui, mais c'est pour pas contaminer les gens qui venaient après. Non, en fait, c'était pour pas contaminer Chroma, parce qu'il fallait pas que dans les échantillonnages, dans les études qu'on allait faire après, il y ait de l'ADN ou tout ce qui se trimballe dans l'air ou avec le contact qui puisse contaminer notre bébé mammouth. C'était pas pour les gens après, puisque Chroma était stérile, donc pas de souci. Les premières images en trois dimensions nous donnaient ça, et vous voyez le traumatisme, on le voit bien au centre de la colonne vertébrale qui a été fracturée, qui a été cassée en deux, dû à la chute de cette falaise. Je vais aller un petit peu plus en précision avec le crâne de Chroma, qui est assez marrant puisque on voit ici, je vais vous aider un peu, on voit ici les dents de lait de Chroma qui sont encore sous la gencive, en fait. Ici, il y avait la gencive. Donc, ça veut dire que les dents de Chroma n'ont jamais servi. C'est un bébé qui était essentiellement ou à 100% nourri par de l'allaitement. Et quand les dents sont pas sorties de la gencive, c'est un mammouth qui a moins de 2 mois. Donc, c'est un tout jeune bébé mammouth. Et je vous parlais des défenses de lait des bébés mammouths. Là, voilà la défense de lait de Chroma. On la verra plus tard quand on va la sortir. Elle est gros comme mon petit doigt. Elle est grosse comme mon petit doigt. Et le lendemain, donc, on a commencé l'autopsie. L'autopsie, c'est comme une autopsie d'un cadavre humain. Donc, on commence par l'extérieur, vers l'intérieur. Normalement, chez les hommes, je crois qu'on commence par le haut et on descend par le bas. Nous, on a commencé par le bas pour remonter. Sinon, c'est la même chose. Donc, on a prélevé un petit peu tout. Là, c'est de l'ongle qui est prélevé. Des morceaux de la trompe. Et on a ouvert. Et en ouvrant, vous voyez tout de suite que sous l'épiderme, on a les couches de graisse qui apparaissent. C'était tout en parfait état, hein. L'intestin, un morceau de l'intestin, puisqu'on a sorti l'estomac, l'intestin était plein, il y avait tout le bol alimentaire à l'intérieur. Donc on avait son dernier repas, son avant-dernier repas et son avant-avant-dernier repas. Tout était plein. Les parties, je ne sais pas si on le voit sur celui-ci, ouais, les parties un peu plus claires de l'intestin renfermaient du lait. C'était blanc, c'était du lait de mammouth. Donc on avait du lait. On découpe un peu l'estomac. Voilà l'estomac de Chroma. Des photos d'autopsie. On a recousu, bien sûr. Là, on a ouvert la joue. On a ouvert la joue parce qu'on va récupérer les dents de lait, les défenses de lait. Et ce que vous voyez qui pend, en fait, ce sont les muscles de la joue. Vous voyez qu'ils sont un peu rouges, les muscles de la joue. Ben, c'est du sang. C'est du sang de mammouth. C'est la première fois qu'on trouvait du sang, du vrai sang de mammouth, en fait. Les muscles étaient rouges de sang à l'intérieur. Ça, c'était un grand moment parce qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent du vrai sang de mammouth. L'autre bébé qui avait été autopsié, Liuba, était oxydé et lui, il avait été décongelé naturellement et recongelé par la suite, donc le sang était complètement oxydé. Là, avec Chroma, je vous dis, il n'y a pas eu de rupture de la chaîne du froid, on avait du vrai sang de mammouth. Ça, c'était fantastique. On a fait l'autopsie 2 jours avant que le colloque sur les mammouths ouvre puis envolé. Et dans un des points forts du colloque, on a eu un Australien qui est venu nous expliquer que grâce à l'ADN du mammouth, il avait pu reconstituer la molécule de sang du mammouth. Ça avait duré 3 ans et que grâce à cette reconstitution, il savait que le sang ne tournait pas de la même façon, qu'il ne transportait pas l'oxygène de la même façon et que ça protégeait encore plus les mammouths du froid. Et il nous a expliqué que c'était très dur de refaire ça avec de l'ADN, ça avait duré plus de 3 ans. Et nous, on s'est regardé avec ceux qui avaient fait l'autopsie, avec un grand sourire en disant bah, on en a du sang, nous, si tu veux, on t'en donne, ça ne dure pas 3 ans, quoi. Et du coup, c'était. On s'attendait absolument pas à trouver du sang, en fait. Hein. Là, on l'avait décongelé. On a décongelé par palier le bébé mammouth parce que s'il était à moins 18 degrés, de toute façon, on ne pouvait pas ouvrir du cuir. Hein. Le cuir du bébé mammouth, il faisait déjà un peu moins d'un centimètre. C'est impossible d'ouvrir au bistouri. On avait essayé, quand on avait fait les premiers prélèvements à Grenoble, de prélever sur du cuir. Le bistouri, il a duré 2 secondes. S'il s'est cassé, direct, c'était du roc. Ouais. Oui. Oui, on a tout décongelé. Ça veut dire aussi que c'est la seule et dernière autopsie qui pourra avoir lieu. Il n'y aura pas d'autres études. Ça, c'est la défense de lait qu'on sort. Vous voyez la taille de la défense de lait? On va la voir mieux dans la main. Bon, pour expliquer tout ça. Et ensuite, on s'est attaché à essayer de sortir les dents de lait. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir ou si vous allez bien le comprendre là-dessus. Il y a encore du rouge, c'est encore du sang. En fait, sur les dents de lait, on a peut-être on le voit mieux sur la photo d'après. Ouais. Sur la dent de lait, on voit des petits vaisseaux sanguins qui rentrent dans l'émail de la dent. En fait, ces vaisseaux sanguins-là, ils sont en train de faire grandir l'émail. Ils apportent le calcium, le potassium, qui sont nécessaires à la croissance de l'émail. Ce que vous voyez là, c'est une dent de mammouth en train de grossir devant vos yeux. Et ça, c'était le moment le plus fort, parce que on a commencé l'autopsie à 8h du soir, c'était 4h30 du matin, quand on a trouvé la dent, c'était le dernier truc. Et c'était extraordinaire, parce que c'est comme si le mammouth était mort la veille. On voyait presque la dent en train de grossir devant nous. Quoi. Avec la fatigue aidant, on la voyait vraiment grossir. Mais c'est quelque chose qui n'avait jamais été observé auparavant. On voyait des dents avec de l'émail, la dentine, etc. Mais là, on voit les vaisseaux sanguins qui rentrent dans l'émail et qui font grossir la dent. Donc ça, c'était vraiment un moment assez unique. Je vous passe la pulpe dentaire, etc. On peut tout remettre en culture, on peut tout réétudier. Sur Chroma, je crois qu'il y aura la plus grande batterie d'études scientifiques qui a jamais eu lieu sur un mammouth. On travaille avec, je ne sais pas, entre 18 laboratoires, dont Pasteur. On peut recréer, ou en tout cas mettre en culture la pulpe dentaire des dents, refaire du sang de mammouth. Je vous passe les études sur l'ADN des mammouths, mais sur l'ADN de tout ce qui est à l'intérieur du corps du mammouth, donc les bactéries. On peut retrouver maintenant l'ADN des bactéries, même si elles sont stérilisées, et étudier cet ADN-là. Et dans un corps vivant, d'un homme ou d'un animal, il y a des milliers de bactéries. Donc il y a des perspectives d'un point de vue médical qui sont très très intéressantes avec ces mammouths-là. On ne veut pas les cloner, nous. Et on a recousu Chroma. Et voilà l'équipe qui a servi à faire l'autopsie. On était très nombreux parce qu'on était 1, 2, 3, 4 paléontologues. Il y avait des paléogénéticiens. Et on avait des chirurgiens aussi de l'hôpital Émile Roux du Puy qui nous ont beaucoup aidés parce que on était un peu trop enthousiastes. On savait ouvrir le mammouth, on savait prélever les échantillons, mais par contre, pour recoudre et suturer le mammouth, c'était pas notre truc. Donc heureusement qu'il y avait des infirmières et des chirurgiens parce que sinon... Ou sur autre chose...
Oui, vous nous avez dit que les éléphants donc, ne descendaient pas des mammouths, ouais. Et qu'ils étaient donc même antérieurs. Pourquoi eux, ils n'ont pas muté et qu'ils sont restés?
Eh bien, en fait, c'est très très simple. L'évolution, moi en tout cas, j'explique l'évolution ou je me base beaucoup sur l'évolution avec les changements climatiques. Pour moi, c'est le moteur de tout. C'est parce que vous avez un changement climatique que vous êtes forcé d'évoluer ou de ne pas évoluer. L'éléphant en Afrique, et en tout cas l'hémisphère sud, a subi beaucoup moins de changements climatiques, il y en a eu certains, mais qui étaient beaucoup moins stressants pour les organismes et pour les espèces. Et l'éléphant d'Afrique, il a évolué, mais il n'a pas eu besoin d'évoluer très rapidement et de très nombreuses fois. Le climat a beaucoup moins changé dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Donc il a été dans une savane, il est apparu dans une savane et il a vécu toute sa vie dans une savane et il est encore aujourd'hui dans une savane. Après, plus ou moins arboré, plus ou moins humide, mais il a toujours eu le même environnement. Alors que le mammouth, dès qu'il est parti dans l'hémisphère nord, il s'est retrouvé d'abord ben, avec la savane qu'ils connaissaient. Après, c'était plus une savane, c'était plus une steppe arborée, et ensuite, c'était plus du tout ça. Et ça n'a pas arrêté de changer. Il y a eu des glaciations, des périodes interglaciaires. Il a subi un stress pour une espèce qui est beaucoup plus importante, qui l'ont obligé à évoluer tout le temps et en permanence. Alors que l'éléphant.
Il y avait des mammouths en Afrique et des éléphants ici.
Oui, le mammouth apparaît en Afrique. On avait des éléphants ici pendant les périodes interglaciaires, les périodes chaudes et humides. C'est l'éléphant antique dont je vous parlais qui a nagé sur les îles en Méditerranée. Lui, on le retrouve en Haute-Loire, à Blanzac et à Vazeille. Oui. Il y a deux sites.
Comme dit monsieur, les espèces éléphants.
Attendez, si je vais vous passer le.
C'est pas le même éléphant.
Le micro.
Monsieur dit que l'espèce de l'éléphant est restée. C'est pas le même éléphant que l'éléphant d'aujourd'hui. C'est un lointain cousin de l'éléphant d'Asie, qu'on appelle l'éléphant antique, qui est beaucoup plus robuste, qui est plus trapu, qui est plus grand que l'éléphant d'Asie aussi, et qui a disparu. Un peu plus tard. Lui, quand il faisait froid, il vivait dans le sud de l'Espagne et en Italie. Dès qu'il faisait chaud, il pouvait remonter au nord. Et en fait, il faisait les vases communicants avec les mammouths. Les mammouths, quand il faisait froid, ils pouvaient redescendre au sud. Dès qu'il faisait chaud, ils remontaient au nord. C'est ça, les périodes glaciaires, interglaciaires. Mais les mammouths, ils sont descendus quand même très très bas, parce qu'on en retrouve jusqu'à Gibraltar. Et Gibraltar, en tout cas la Méditerranée, ça n'a jamais été très très froid non plus, même pendant les périodes glaciaires. Hein. Je vous rassure.
Et la place du mastodonte dans cette...
Les mastodontes ont disparu d'Europe il y a 2 millions d'années, en tout cas le mastodonte d'Auvergne. Il y a d'autres mastodontes en Asie et en Amérique du Nord qui ont existé. Et le mastodonte américain, lui, il a duré jusqu'il y a 8000 ans, donc même après la disparition des mammouths, au temps de la sédentarisation du néolithique, il y avait encore les derniers mastodontes en Amérique. En Chine aussi, on les a jusqu'au début du néolithique. Je vous ai dit, avec les derniers mammouths, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a une île au nord de la Sibérie qui s'appelle l'île de Wrangel, qui a servi un petit peu de zone refuge pour les mammouths, et on trouve sur cette île-là des mammouths jusqu'à 4800 ans BP. BP, ça veut dire... C'est une manière de dater à partir de 1960. Donc vous enlevez 2000 ans à cette date-là. Et en gros, les mammouths ont survécu sur cette île au nord de la Sibérie 2000 ans avant Jésus-Christ, en fait.
Oui, j'aurais deux questions. D'abord, par rapport au sang, est-ce qu'il y a déjà pu y avoir des comparaisons à partir de vos prélèvements avec les résultats trouvés par cet Australien au bout de 3 ans de recherche?
Non, pas encore.
Pas encore.
Mais je ne vais pas lui donner de sang comme ça. Non.
Par contre, je suppose que ce sera une manière de confirmer ou d'affirmer ces résultats.
Ouais, en fait, nous, on veut aller plus loin que ça. De reconstituer des molécules de sang de mammouth, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Ce qui nous intéresse avec Chroma, c'est de pouvoir travailler sur le mammouth et sur l'éléphant, de comprendre pourquoi est-ce que les mammouths étaient aussi bien adaptés à des climats froids et secs, et ça on peut le voir en comparant avec l'éléphant. Il y a un exemple tout bête que je peux vous donner. Quand on a prélevé un des reins de Chroma, le rein de Chroma, il était comme ça. C'est énorme, hein, un rein comme ça. Je ne sais pas si vous avez en tête l'idée de la taille d'un rein humain, mais c'est tout petit à côté, hein. Et quand on a sorti le rein, on s'est dit, tiens, il est gros, peut-être qu'il y a une maladie, il y a un problème, ou je ne sais pas trop quoi. C'est la première fois qu'on voyait un rein de mammouth en même temps, et là, c'est un bébé qui a un mois. Et deux jours après, on commençait à réfléchir dessus. On s'est aperçu que les reins qui étaient très très gros, on les retrouvait que chez les animaux qui vivent dans des milieux arides, sans quasiment d'eau, d'apport en eau. Donc en fait, quand on parle des mammouths et qu'on voit ce climat froid, il faut mieux penser à un climat très très sec. Le rein, il fonctionne comme un véritable filtre qui va garder les particules à éliminer, mais qui va recycler l'eau, qui va repartir dans le corps. Et vous avez un circuit comme ça, où l'eau n'est pas expulsée. C'est une urine qui est très très concentrée chez les mammouths, et qui va, le liquide va être en permanence recyclé dans le corps. Il n'y a pas de perte d'eau chez le mammouth. Et on a compris ça en regardant un rein de chameau, en fait. Il n'y a pas de rapport entre le chameau et le mammouth, mais il n'y a que comme ça qu'on a... Et c'est grâce à Chroma qu'on a compris ce genre de choses. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ces adaptations à ces climats froids et secs en comparant avec les éléphants. Il y a aussi beaucoup de différences entre les mâles et les femelles. Et là, ça va être intéressant parce que Chroma, c'est un jeune mâle. Liuba, celui d'avant, qui a le même âge en fait que Chroma, c'est une jeune femelle. Donc on va voir les garçons, les filles, les mammouths, les éléphants. Et on va travailler là-dessus. Pour une partie de l'étude après, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui sont faites sur la génétique, ce qu'on appelle la métagénomique et la génomique, c'est-à-dire l'ADN du mammouth, donc de Chroma, et l'ADN de tout ce qui est à l'intérieur de Chroma, qui n'est pas du mammouth. Et ça, c'est aussi important parce que ça n'a pas été fait avant sur Liuba. Sur Liuba, l'autre bébé mammouth, le corps était un peu oxydé et on dit l'ADN n'est pas propre, il est sale. C'est de l'ADN qui est sale, qui n'est pas très très bien conservé. Sur Chroma, on a une telle conservation qu'on a du vrai ADN nucléaire, des noyaux, des cellules, donc du père et de la mère. Et ça, c'est important. Si vous parlez de clonage des mammouths, c'est avec cet ADN-là que vous pouvez le faire. Nous, ce n'est pas notre but, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Mais on a du vrai ADN qui est propre et en grande quantité. Donc on a beaucoup, beaucoup d'espoir de retrouver cet ADN des bactéries, de tous ces petits organismes qu'il y avait à l'intérieur du corps. Même des plantes, maintenant, on étudie les pollens, mais on fait aussi de l'ADN sur les restes de plantes qu'il y a à l'intérieur. Dans le chroma, il n'y en a pas, il n'y a que du lait. Mais bon, dans les sédiments, dans le permafrost qu'il y avait à l'intérieur du corps de chroma, il y a des restes de plantes. Et sur ces plantes-là, on va faire de l'ADN aussi.
Du lait. Pardon. Merci. Est-ce que vous avez pu étudier la composition du lait?
La composition du lait, ça va forcément être fait. C'est aux États-Unis que c'est fait. Le lait, c'est de la graisse saponifiée, en fait. C'est un peu compliqué comme mot, mais on va connaître la composition chimique parfaite, si vous voulez, de ce lait-là. On sait à quoi ressemble à un lait, comment est-ce que c'est fabriqué chez le mammouth, c'est comme chez les autres mammifères. Mais après, sa composition chimique exacte, on va pouvoir la connaître et, oui, connaître les différences avec les éléphants, par exemple, comment ça marche. Le lait dans le chroma, c'était une sorte de pâte blanche un peu visqueuse, quoi. C'est pas mal. Presque en poudre, presque lyophilisée, même quand on l'est allé sur les doigts, on aurait pu mettre de l'eau et le boire, peut-être, je sais pas à quel goût ça a, j'ai pas voulu tester, mais dans le café, ça aurait été bien. Ouais, mais il y a plein de choses qui sont intéressantes. Il y a le lait, c'est des Hollandais qui veulent travailler dessus, qui s'intéressent au lait des mammouths. Plutôt sympa. Il y a une odeur aussi, on n'en a pas parlé, mais même congelé, Chroma a une odeur. Les animaux congelés ont une odeur. Les rhinocéros, quand vous allez en Yakoutie, que vous ouvrez ces grands congélateurs, vous avez une odeur pour les rhinocéros, pour les bisons. Ils ont tous une odeur différente, en fait. Et Chroma a aussi une odeur. Et arriver à travailler sur cette odeur, moi, je rêverais d'un appareil qui capte les odeurs fossiles. Ben, c'est une odeur fossile, c'est de l'odeur de mammouth. Ça sent pas la charogne, ça sent pas l'animal crevé ou je sais pas quoi. Ça sent le mammouth, quoi. Et c'est une odeur qui existe, c'est de l'odeur fossile, en fait. Et j'adorais pouvoir capturer cette odeur et je sais pas comment faire. Alors les gens qui avaient jamais senti de mammouth avant disaient ça sent la croquette pour chien. Et moi j'ai pas de chien, je sais pas quoi c'est. Moi c'était ça sentait le mammouth quoi. Ça sent le mammouth. Ça sent pas, enfin ça sent pas mauvais. Faut pas craindre non plus quoi. Mais c'est une odeur particulière. Ça sent limite plus le fauve que le gibier. En fait, ça se rapproche plus du fauve que du gibier. Ouais. Ah oui, il est entre 1 et 2 mois, et il est vraiment tout neuf, là, hein. Le pauvre.
Alors, avec le réchauffement climatique, les glaces vont fondre. Ça va peut-être mettre à jour des mammouths en parfait état de conservation. Alors, à partir d'un mammouth mâle et d'un mammouth femelle parfaitement conservé et conservé dans les conditions identiques que celui-ci, que le bébé mammouth, là, ouais. Est-ce qu'on pourrait penser, à partir de ce mâle et de cette femelle, créer un mammouth vivant?
Alors, il suffit d'un mammouth pour arriver à faire un mammouth. Si vous avez, dans une cellule, vous avez un noyau, dans le noyau, vous avez ce qu'on appelle l'ADN nucléaire. L'ADN nucléaire, c'est l'ADN du père et de la mère, donc d'une mâle et d'une femelle. On peut refaire à l'identique un chroma, si vous voulez. C'est possible. En ce moment, sur Internet, vous avez des articles qui circulent, puisque les Japonais ont commencé à s'y mettre sérieusement. Il faut 3 à 5 ans pour pouvoir recloner un mammouth. Il y a plusieurs méthodes qui sont possibles en utilisant des éléphantes. Mais dans ce cas-là, vous allez créer quelque chose, moitié mammouth, moitié éléphant. Il faudra faire tout un tas d'essais avant d'avoir un vrai mammouth. Ça peut être terrible. Il y a une méthode qui est totalement in vitro pour faire recréer vraiment du mammouth, mais qui coûte extrêmement cher. Après, vous avez des problèmes plus éthiques par rapport à ça. C'est si vous faites revivre un mammouth, un animal qui a disparu, vous allez en faire un pour faire quoi ? Son environnement a disparu, il ne pourra pas se reproduire, parce que sinon il faut que vous trouviez 200 autres mammouths avec de l'ADN nucléaire pour arriver à faire une petite population qui puisse survivre par elle-même. Ça, c'est impossible. Vous allez faire un mammouth qui va vous allez mettre dans un coin, vous allez faire visiter aux gens comme à la foire du trône, en fait, faire payer l'entrée et vous aurez fait un mammouth, vous êtes content, etc. Ça, c'est des problèmes que se posent les pays, je dirais, riches occidentaux. C'est la France, les États-Unis, le Danemark, les Anglais, les Allemands. Ils se posent beaucoup de problèmes éthiques. Ça sert à quoi de recréer des espèces qui ont disparu ? Pour faire quoi ? Si ça ne sert pas vraiment à la science, puisque vous voyez, on arrive à la même chose avec des mammouths congelés. Moi, j'ai toujours pensé que ces questions-là, c'était des fausses questions, parce que aujourd'hui, les recherches en ADN, elles ne se font pas en Europe, elles ne se font pas en France. Je suis désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas un Français qui va cloner un mammouth pour la première fois. Ce sera certainement un Japonais ou un Chinois, d'ailleurs, pour une simple raison. En France, vous avez 5 appareils qui servent à récupérer l'ADN au CNRS. Donc 5 appareils qui font 35 heures par semaine, moins les pauses café. Vous êtes d'accord ? 5 sur toute la France. Moi, j'ai visité un laboratoire en Chine. Il y avait 128 séquenceurs d'ADN dans un seul laboratoire. Et les chercheurs, là-bas, ils font les 3-8. Donc, on ne peut absolument pas rivaliser avec ces choses-là. On va recloner un mammouth, je dis on, les Chinois ou les Japonais, parce qu'ils travaillent de la même façon. Et la vraie question, ce n'est pas une question d'éthique. Vous pouvez toujours poser ces questions d'éthique aux Chinois. Ils n'ont absolument rien à... Ça ne les intéresse pas. La vraie question, c'est qui va cloner un mammouth en premier ? C'est la seule vraie question qu'il faut se poser. Alors ça... Moi, je suis plutôt curieux. J'aimerais beaucoup voir un vrai mammouth, en fait. Donc, j'ai bien envie de cloner un mammouth. Après, c'est vrai, c'est pour en faire quoi ? On va le mettre où et on va en faire quoi ? Mais si vous faites un mammouth, je dirais vous refaites vivre qu'un animal. On peut refaire du rhinocéros laineux, on peut refaire vivre des loups, des ours, des bœufs musqués congelés en Sibérie, il n'y a pas de souci. Ça reste qu'un animal. Le jour où on va trouver, pas de l'homme moderne parce que ça reste de l'homme, mais du Néandertal par exemple, et qu'on va être capable de refaire vivre Néandertal, là ça va être des questions beaucoup plus difficiles, parce que Néandertal c'est un homme, mais c'est une autre humanité. Alors déjà qu'entre nous on n'y arrive pas, si en plus vous faites une autre humanité, qu'est-ce que vous allez faire ? Ça, ça va être des problèmes beaucoup plus graves, ça. Il y a des traités qui sont signés sur le non-clonage sur les hommes. D'ailleurs, les Chinois l'ont signé, donc ce n'est pas les Chinois qui vont faire, qui vont travailler sur le clonage humain. Mais par contre, à côté de la Chine, vous avez un pays où personne ne peut entrer, qui est fourni en matériel et en savoir par les Chinois. Et eux, ils signent rien du tout. Et s'ils veulent cloner de l'homme, ils vont cloner. C'est la Corée du Nord. Et eux, ils signeront aucun traité. Moi, je suis sûr que le clonage humain, et s'il y a du Néandertal, et s'ils en trouvent en Corée du Nord, ou qu'ils achètent des morceaux pour le faire, ça se fera en Corée du Nord. C'est obligé. Les autres pays ont dit qu'ils ne le feraient pas. Ils ont signé des traités.
Mais scientifiquement, c'est plus...
Ah oui. Scientifiquement, il nous manque entre 2 et 5 ans de travail dessus pour le faire. Mais dans 5 ans, vous pouvez le faire. c'est une horreur, ça posera des vrais problèmes si vous créez une deuxième humanité, je vous dis. Néandertal, c'est un homme, mais c'est un homme qui n'aura pas de territoire, qui n'a pas de civilisation, vous allez en créer un. C'est pas une bête de foire non plus. Moi, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais ça va être grave de faire ce genre de choses-là. Donc, c'est pour ça. Juste recréer un mammouth, à la limite, c'est moins grave. Je préfère qu'il travaille sur le mammouth que sur Néandertal ou de l'homme fossile, quoi. C'est dangereux, ça. Hein. C'est dangereux. Et pour revenir au début de votre question sur les changements climatiques, moi, j'ai une vision du changement climatique qui est un peu différente. C'est vrai que le réchauffement climatique, on ne voit pas vraiment en Sibérie un vrai réchauffement. Il fait toujours aussi froid, les hivers sont toujours aussi longs. Enfin, quoique. La seule vraie petite différence, c'est qu'il y a une dizaine d'années, l'été, le vrai été, durait 4 semaines. Alors qu'aujourd'hui, le vrai été va durer 5, 6, des fois 7 semaines, les 2-3 dernières années. Donc, en fait, ça va permettre, sur 2-3 semaines de plus, de dégager un tout petit peu plus de permafrost, de mettre à jour un petit peu plus de carcasses, peut-être. Mais c'est un territoire qui est tellement grand qu'il y a beaucoup de carcasses qu'on ne va jamais découvrir, qui vont pourrir et qui vont disparaître. Donc, on va peut-être mettre à jour beaucoup plus de mammouths qu'avant, mais on n'aura pas forcément accès à ces carcasses. Déjà, on pense que ce qui est découvert en Sibérie, les scientifiques ont accès à 5% de ce qu'on trouve là-bas. Donc, avec le réchauffement, le pourcentage va diminuer un peu plus, en fait. Le commerce des mammouths, on a beaucoup de chance avec ces peuples nomades, c'est qu'ils ont une religion un peu spéciale, où ils pensent que sous la terre, il y a un monde qui vit et que ces animaux, lorsqu'ils sortent à l'extérieur, ils sont tués par le soleil, ils sont desséchés par le soleil. Et quand ils trouvent un bébé mammouth ou un rhinocéros ou un bison, pour eux, c'est un très mauvais présage. Ils sont responsables de ce cadavre et c'est un oiseau de mauvais augure. Donc, ils sont dans leur tête, dans une sorte de course contre la montre pour essayer de se décharger de la responsabilité de leur découverte à quelqu'un d'autre, pour qu'il leur arrive pas malheur. Donc il n'y a pas possibilité de vendre ou d'acheter ça. Ils donnent la responsabilité, ils s'en dégagent, et ils sont très contents de se dégager de cette histoire bébé mammouth. La seule chose qu'ils nous demandent à nous, c'est de rendre à la terre ce qu'on a pris à la terre. Quand on a sorti Jarkov, on a sacrifié 3 rennes à l'intérieur du trou. Vous redonnez à la terre ce que vous lui avez pris. Sinon, ça ne va pas non plus. Quand vous trouvez Chroma, on va aller sacrifier un renne, normalement au printemps prochain, à l'endroit où on a trouvé Chroma. Il faut toujours redonner quelque chose. Et c'est comme ça qu'on entretient des bonnes relations avec eux et qu'on arrive à dialoguer, à avoir une sorte de confiance, en fait, et qu'ils continuent à nous appeler, à nous prévenir.
Oui, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez eu 15 jours pour les fouilles à Neuillac.
Ouais.
Pourquoi seulement 15 jours? Et d'autre part, est-ce que vous avez trouvé d'autres ossements? Ou est-ce qu'on pourra trouver plus tard d'autres ossements de...
Alors, à Neuillac, on n'a eu que 15 jours, parce que quand on fait une demande d'une autorisation de la DRAC, il y a des dates précises. On commençait le 15 août, on finissait le 30 août, qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas quelque chose. Et on a trouvé d'autres choses que le mammouth à Neuillac. D'abord, on a trouvé son genou, sa rotule, 60 mètres plus loin. Et dans les champs autour, j'ai trouvé un peu de rhinocéros, un peu de loup et un peu de cerf. Il y a toute la faune, oui. Mais il y en a partout, en fait. Il suffit de se promener dans les champs, en Haute-Loire, et de regarder, au lieu d'aller aux champignons, vous regardez les eaux et vous en trouvez partout, des fossiles, il y en a partout.
Oui, c'est vrai. Bon, encore beaucoup de belles conférences et de belles expositions en perspective. Alors, merci infiniment. On se retrouve tout de suite en sortant. Merci. Merci.